Nuage délai. Art. Création. Culture. Promenade. Rencontre. Entretien.
C'est l'émission Nuage délai sur Jet FM. Et dans cette émission, je vous propose la suite de l'émission de la semaine dernière, c'est-à-dire les actes 2 et 3 d'une série de podcasts enregistrés en compagnie du compositeur Philippe Leroux. Dans les oreilles de Philippe Leroux et bientôt d'autres invités, c'est une série de podcasts proposés par Angers Nantes Opéra et que nous avons eu le plaisir de produire avec Jet FM. Philippe Leroux était invité d'Angers Nantes Opéra pour une création mondiale, L'annonce faite à Marie, son premier opéra, sur un livret adapté du travail de Paul Claudel. Et c'était l'occasion donc de discuter avec lui à travers 5 choix musicaux et sonores qu'il avait proposés pour activer la discussion. Après la voix, qui était l'objet du premier acte de ce podcast diffusé la semaine dernière sur cette même antenne, voici les actes 2 et 3, le microphone tout d'abord, puis le texte. L'intégralité de ces podcasts est disponible notamment sur la chaîne YouTube d'Angers Nantes Opéra.
Dans les oreilles de
Philippe Leroux.
Une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra en collaboration avec Jet FM, réalisée par Henri Landré.
Acte 2, le microphone.
Alors, non, je ne suis pas un collectionneur, hein, je ne suis pas la mentalité de collectionneur, mais ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, la voix, c'était vraiment quelque chose d'infini. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite en fait, à l'invention de ce que peut faire une voix. C'est tellement connecté à notre intériorité que c'est incroyablement riche. Vous voyez, si on prend un instrument, bon, le piano, on joue sur les touches, éventuellement on peut jouer à l'intérieur du piano, mais il y a un moment, on va finir par tourner en rond, quoi. On va pouvoir inventer des milliards de techniques. Mais la voix, la moindre inflexion vocale, la moindre inflexion sonore dans la voix peut avoir des conséquences inouïes. Donc c'est ça, oui. Donc je suis à l'écoute toujours hein, de nouvelles choses que j'entends, mais bon, je suis pas un collectionneur.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente.
C'est un peu pour ça que j'ai choisi dans mes extraits le pont Mirabeau, là, dit par Guillaume Apollinaire. Bon, j'aurais pu choisir autre chose, j'aurais pu choisir une... Enfin, bon, il y a de multiples possibilités. Disons que moi, là, ce qui m'a intéressé le plus, c'est l'aspect microphonique. C'est-à-dire déjà, dès qu'on utilise un microphone, c'est comme un espèce de comme un microscope, en fait, mais du son. Donc on grossit le son. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer à entendre des choses qu'on n'entend jamais, parce que quand quelqu'un nous parle, on est à un mètre de cette personne, au moins, ou à plus. Donc là, si on est près d'un micro, on va entendre des micro-détails dans le son qui révèlent de nouveaux paramètres de la voix, voire de nouveaux paramètres musicaux. Et puis voilà, après, bon, bah, c'est ça, on peut utiliser ça pour générer de nouveaux types de musicalité un peu, hein. C'est-à-dire que euh, on va s'intéresser, par exemple, je sais pas, au grain de la voix. Si je fais, par exemple, enfin, je sais pas, je suis un peu loin de votre micro, je me mets exprès loin. Si je fais et si je fais le résultat est complètement différent. Ce n'est même plus le même son. Et puis là, d'un seul coup, on va entendre. C'est comme un monde dans lequel on rentrerait à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment, c'est ça. C'est un microscope. Donc, c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre pour la vocalité, en fait. Donc là, évidemment, on est très loin du bel canto. Mais moi, je pense qu'on peut, on peut travailler sur les deux. Il suffit de bien doser. À certains moments, on va plus travailler vers ça. Et là, alors, dans l'opéra, dès le départ, comme c'est une pièce de Claudel qui est une sorte d'autobiographie indirecte, il a travaillé quand même 56 ans sur cette pièce. Il en a fait 4 versions. Ça s'est étalé sur une très longue période de sa vie. Et donc, pour marquer cet aspect autobiographique, en fait, j'ai eu l'idée dès le départ d'utiliser sa voix pour qu'il intervienne dans son propre texte, en fait, soit comme s'il était en train de l'écrire par moment, soit comme s'il était en train de le commenter ou de commenter ce que faisaient les chanteurs. Donc il apparaît à différents moments. Et comme on a très peu d'enregistrements de lui, qui sont d'extrêmement mauvaise qualité parce qu'il était très vieux, que c'était dans les années 50, donc l'enregistrement n'était pas... Et c'était pas encore très, très sophistiqué, les qualités d'enregistrement, et qu'en plus, c'était un paysan, il avait une élocution difficile, bref. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de resynthétiser sa voix, d'essayer de retrouver, en fait, de lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites, par une synthèse. Alors quand je dis des choses qu'il n'avait jamais dites, en fait... C'est des choses qu'il n'a jamais dit, mais qu'il a écrit. Je ne fais pas dire des choses, je ne fais absolument rien dire qu'il n'aurait pas écrit. Hein. Donc, on lui fait dire uniquement des choses qui appartiennent au texte, en fait. Pour arriver à refaire une synthèse qui soit vraiment très bonne de la voix d'un vieillard qui a un accent paysan et dans un enregistrement très mauvais et avec peu d'enregistrements, ça demandait vraiment une technologie assez sophistiquée. Hein. Donc, à l'IRCAM, ils ont travaillé sur des réseaux de neurones, en fait, à qui on confie l'apprentissage de la voix à partir des échantillons qu'on a, et donc qui resynthétisent, et ça marche plutôt pas mal. On n'était pas du tout sûr que ça allait marcher, hein. Pas du tout. Hein. Donc, à tel point qu'on avait même imaginé que si ça marchait pas, on demanderait à un comédien... de lire le texte, et puis après on essaierait de faire de la synthèse croisée avec le peu d'enregistrement qu'on a de Claudel. Ce qui aurait été moins satisfaisant. Là c'est quand même très bien. Alors il y a des tout petits moments où on entend quelques artefacts, mais c'est vraiment peu, et puis enfin, tout le monde reconnaît la voix, il n'y a aucun problème.
Peut-être,
à midi, quand on mange,
et peut-être,
que la nuit, vous réveillant,
vous entendrez.
Le jour où j'ai entendu cet enregistrement d'Apollinaire, parce que j'adorais Apollinaire étant petit, c'était vraiment et particulièrement ce poème. Et quand j'ai entendu en fait sa voix qu'il disait, je pensais c'est vraiment une irruption de la grande histoire, parce que c'est un truc incroyable quand même, pouvoir enregistrer la voix, pouvoir écouter la voix de quelqu'un qui est mort. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant l'enregistrement, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le monde sonore de l'humanité, et donc dans la musique aussi. Ça induit vraiment tout un tas de comportements nouveaux. C'est ce qui m'a amené à désirer de mettre la voix de Claudel, notamment, dans son texte. Alors après... c'est aussi ça, le rapport à la poésie. Moi, je suis plutôt quelqu'un proche de la poésie. J'ai travaillé sur des niveaux vocaux, j'ai travaillé sur des textes, des poèmes d'un Québécois, Fernand Ouellet, de Jean Grosjean, de Edmond Jabès. J'ai travaillé beaucoup sur la poésie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, voilà. Alors, après, c'est aussi ça qui m'a motivé quand j'ai lu cette pièce de théâtre de Claudel, c'est-à-dire que c'est à la fois de la poésie et à la fois du théâtre. Voilà. Donc, on a vraiment un alliage extraordinaire entre la dramaturgie, donc avec des personnages pleins de passion, une articulation dramatique qui est vraiment extrêmement bien faite, de la jalousie, de l'amour, enfin toutes sortes de choses qui à mon avis sont importantes pour faire un opéra, qui sont essentielles, je dirais. Enfin, ouais, bon, question, on peut en discuter, mais et puis en même temps, voilà un langage extrêmement poétique. Avec une très grande richesse d'images visuelles et sonores, parce que c'est aussi les sons employés par Claudel sont magnifiques, et le rythme qu'il emploie. Parce que c'est très particulier, le vers claudelien, parce qu'en fait, il sépare souvent la façon dont il enchaîne les phrases et les vers, son désaccord avec la structure du sens de la phrase, en fait. Et donc, il recompose musicalement lui-même, en fait, déjà, le sens des phrases. Et donc, ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Il va même, des fois, jusqu'à couper un mot en deux. Pas dans l'annonce, il ne le fait pas, mais dans le partage du midi, comme ça, j'ai plus en tête le mot. Mais il demande aux acteurs de s'arrêter au milieu du mot, en fait, et puis de finir le mot plus tard. Donc, c'est quand même assez fort d'introduire du silence comme ça, de casser complètement le rythme de la sémantique rationnelle, on va dire, du mot, pour introduire justement un autre type de sens. Donc voilà, oui, la poésie, c'est très, très intéressant. Ouais, pour moi, c'est un moteur. De toute façon, un texte, il n'a pas besoin de musique. Il est sa propre musique. Donc, ça n'aurait aucun intérêt de vouloir musicaliser un texte tel qu'il est déjà musical. Enfin, donc, à mon avis, c'est vraiment autre chose qui se passe. On est plus dans l'ordre du commentaire ou de la résonance, peut-être de la résonance plus. C'est-à-dire comment un texte résonne en nous, qu'est-ce qu'il met en action. Et donc, ça veut dire que, en fonction de ces résonances, on peut être amené à changer de la structure du texte, sans le dénaturer. Mais...
The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia, 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 Georgia. A song of you come as sweet and clear as the moonlight through the pines. Yeah. Other's arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Yes, Georgia, 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 Georgia. No peace I find, just an old sweet song keep Georgia on my mind.
Une voix fraille, c'est une voix qui joue sur le grain de la voix. Hein. Donc c'est vraiment... Bon, alors chez Armstrong, il y a beaucoup ça. Et c'est magnifique. Pourquoi ne pas utiliser ça dans un opéra ? Voilà, c'est tout simple. Et bon, pourquoi se priver de ça, hein ? ça je ne comprends pas, quoi. Alors après, là, le problème qui se pose, enfin, le problème, pas forcément un problème, mais l'enjeu, quoi, c'est d'arriver à convaincre les chanteurs de travailler là-dessus, parce que très souvent, les chanteurs ont appris à chanter justement pour éviter au maximum ce genre de phénomène. Donc tout leur apprentissage, en tout cas en Occident, tout leur apprentissage consiste à ne pas faire ce que moi je leur demande parfois, justement. C'est-à-dire même des fois mettre du souffle dans la voix. Eux, ils ont passé des années à retirer le souffle de la voix. Donc quand on leur dit, mais moi je voudrais là, tu chantes cette note là, mais en même temps tu mets un peu de souffle à l'intérieur. Oh, pas facile. Hein. Alors la voix fraille aussi, c'est compliqué. Mais en même temps... J'ai essayé, par exemple, pour la voix fraille, j'ai essayé de la relier vraiment à un sens littéraire, enfin un sens non, ou même dramatique, enfin à l'intérieur du texte de Claudel. Donc je pense que les chanteurs, une fois qu'ils ont saisi la connexion entre ce qu'ils sont en train de dire et la technique vocale qu'ils utilisent, ça marche. Là, on peut leur demander beaucoup de choses. Pour moi, c'est tout simple, hein. C'est-à-dire composer, ça commence toujours par improviser. Voilà. Alors, à moins que vraiment on ait fait un travail, je dirais, structurel, préparatoire, où quasiment tout est préconçu par des règles mathématiques, des proportions, toutes sortes de... Mais dans ce cas-là, c'est possible aussi ça, et que ce soit intéressant, mais à ce moment-là, de toute façon, il y a un moment où on va devoir improviser. Et parce que c'est quoi improviser ? C'est être dans l'invention. Et voilà. Donc, moi, quand je commence une pièce, je commence par improviser dans ma tête, en fait, des sons, des rencontres de sons. Voilà. Donc, je pense à Chopin, là, qui a improvisé, vous savez, il a improvisé sur le piano jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il appelait la note bleue. On fait tout ça de toute façon. Enfin, peut-être pas tous, mais enfin, en tout cas, moi. L'improvisation, c'est vraiment la base. Et puis, pour cette histoire d'improvisation, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, parce que j'ai vraiment eu une chance incroyable, c'est que quand j'avais 17 ans, 18 ans, a été créé à France Musique des ateliers, à Radio France, ils ont créé des ateliers pour les jeunes musiciens. Et c'est ça, c'était un truc qui avait lieu tous les dimanches, et on était là... on était, je ne sais pas, une dizaine, et dedans, il y avait tout. Il y avait des instrumentistes, il y avait des chefs d'orchestre, mais très jeunes. Hein, il y avait des fois des gens qui avaient 9-10 ans. Hein. Moi, qui voulais être compositeur et tout ça. Et on avait à notre disposition tout le matériel de percussion de Radio France. Je ne sais pas si vous voyez le pôle de percussion, c'est un des plus grands du monde. C'est plus piano, clavecin, c'était extraordinaire. Et donc, on se faisait des séances tous les dimanches matin d'improvisation, en fait. Qu'on notait. Enfin, c'était pas tout le temps de l'invention pure, mais beaucoup. Donc, et on restait toujours dans cette idée d'improvisation, donc de relation aux autres, d'écoute, évidemment, d'écoute de l'autre, comment on réagit du point de vue sonore à une proposition de l'autre, comment on la fait vivre, comment on la développe. Enfin bon. Donc l'improvisation, pour moi, ça m'a ouvert des horizons infinis. Parce que là, on était dans ce qu'on pourrait appeler une improvisation générative, qui est différente de l'improvisation de jazz, qui est un peu plus cadrée, avec des grilles, etc. Mais enfin, bon, voilà, ça, c'est très important. Et puis moi, le jazz, ça a été aussi extrêmement important pour moi parce que, d'abord, j'en écoutais beaucoup. J'en écoute moins maintenant parce que je suis un peu focalisé sur des choses plus particulières. Mais j'en écoutais beaucoup, j'en ai joué. Et ce que il y a vraiment deux choses que j'ai admirées dans le jazz. C'est une qui est quasiment anecdotique, c'est que j'adore comment on finit un morceau de jazz. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi, quoi. On n'est pas là à faire 50 cadences et tout ça. Hop, on plaque deux accords, c'est fini, pof. Ça, je trouve ça merveilleux, quoi. D'éviter tout ce fatras de formules de politesse de la musique classique. Ouf, ça se faisait du bien. Et puis, vous voyez, cette idée d'organicité dont je parlais tout à l'heure, ça, je dirais que c'est quelque chose qui me vient du jazz, en fait. C'est-à-dire l'idée que toutes les choses sont reliées, que le temps est à la fois élastique, mais en même temps, enfin, c'est difficile à décrire. Parce que dans la musique classique, en général, alors peut-être pas justement dans le grégorien ou des choses comme ça, on est dans un temps extrêmement cadré du point de vue métrique. Alors dans le jazz aussi, mais il y a une espèce de logique d'enchaînement des sons dans le jazz que je ne trouvais pas dans la musique classique. Et ça, ça m'a beaucoup nourri, parce qu'après, je l'ai cherché. J'ai cherché à le reproduire, ça, d'une façon complètement différente. Ma musique est très différente du jazz, mais j'ai cherché à retrouver cette évidence logique d'enchaînement entre les sons, quoi. C'est difficile à exprimer plus en détail, mais ouais. Ça passe par un instrument parfois, ça passe par un ordinateur parfois, avec des sons que j'ai déjà posés sur l'ordinateur. Ça passe par, par rien des fois, ou juste ma tête. Par exemple, le quatrième acte, la fin du troisième et tout le quatrième acte de l'opéra. Je me suis enfermé dans ma maison là, à Hourtin, là, dans le Médoc, et j'avais pas de piano. Donc, j'ai dû écrire tout sans aucune vérification, parce que souvent, je vérifie deux, trois accords, etc. Tout est bon à prendre, quoi. Moi, j'utilise tout. J'utilise les instruments, j'utilise ma voix, ma propre voix. Je chante, je suis capable de chanter tout l'opéra, tous les personnages. Et puis, les ordinateurs, parce que... J'ai mis trois sons sur un logiciel, et puis que en fait quand je les écoute, eux ils me font des propositions musicales. Donc par exemple la ligne vocale que je vais écrire à ce moment-là, en fait elle vient de ça. À d'autres moments c'est l'inverse, c'est sur la ligne vocale que je vais positionner des sons ou des instruments. Donc je suis très très pragmatique là. Hein. Tout est bon, tout ce qui peut servir, hop, je prends.
Dans les oreilles de
Philippe Leroux. Un enregistrement réalisé dans le cadre de la création mondiale de l'annonce faite à Marie du 9 octobre au 19 novembre 2022. Vous écoutez l'émission Nuages d'Élay sur Jet FM et nous écoutons un podcast réalisé en compagnie du compositeur Philippe Leroux à l'occasion de la création de L'annonce faite à Marie, produit par Angers Nantes Opéra, et c'était en octobre dernier. Philippe Leroux, compositeur contemporain, après ce travail autour du microphone, voici son rapport au texte.
Dans les oreilles de
Philippe Leroux.
Une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra en collaboration avec Jet FM, réalisée par Henri Landré.
Acte 3, le texte.
Moi, je suis très à l'écoute des sons de la nature ou des sons urbains, des sons qui m'environnent, à tel point que je vous racontais une anecdote. À un moment, j'ai quitté le lycée, quand j'étais en terminale, parce que ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé, c'était un jour de rentrée après les vacances, et puis j'ai eu un fou rire en cours d'histoire. Donc je me suis fait sortir du cours d'histoire. Donc, on m'a mis en permanence. Non, on m'a envoyé chez la surveillante générale. Et alors là, j'étais écroulé de rire. Alors que c'était pas du tout mon style. Donc j'avais un fou rire incroyable. Je ne pouvais absolument plus me maîtriser. Donc je suis parti en permanence avec menaces de... Enfin, toutes sortes de menaces. Et là, arrivé en permanence, les fenêtres étaient ouvertes et j'ai entendu tous les sons du lycée vraiment comme une musique. Ils avaient vraiment une fonction au sein d'une musique générale, enfin, etc. Et là, et ce moment-là, je me suis dit, bon, ma place n'est plus là. Donc, je suis parti, je ne suis plus jamais revenu. J'ai travaillé pour rentrer au conservatoire un an après. Mais voilà, quoi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il ne tient qu'à peu de choses d'entendre l'univers comme ayant du sens musical, quoi. Ouais. Alors après, bon, il y a aussi... je suis tellement sensible au bruit que, par exemple, je suis incapable de travailler avec de la musique. Il y a plein de gens qui travaillent avec de la musique. Mais moi, je ne peux pas, parce que si j'écoute de la musique, j'écoute... Enfin, mon cerveau, là, il suit la musique, il est incapable de faire autre chose en même temps, quoi. Enfin, ou alors, je ne suis pas du tout concentré. Voilà, mais après, oui, bien sûr, il y a des inspirations. Il y a des moments, dans l'opéra, par exemple, il y a des moments où il y a certains sons qui se positionnent. C'est un peu comme des... Ça, c'est issu directement... Vous savez, quand on passe, mais ça, c'est plus à la campagne, quand on passe à côté d'un générateur électrique, on a une espèce de son très aigu, mais très, très, très fin, très doux. Bon, j'ai essayé, parfois, de recréer des choses comme ça...
Ich muss verfragen.
ça de multiples raisons. D'abord, je trouve c'est une musique magnifique. Je trouve que après le romantisme et le post-romantisme, ce sont les opéras les plus intéressants, enfin, pour moi. Wozzeck, Lulu. Et Wozzeck, par exemple, Wozzeck, le texte de Büchner est tellement extraordinaire. Je l'ai vu deux fois à l'opéra, et deux fois, je me suis dit, il faut vraiment un texte qui soit fabuleux, quoi, qui soit, parce que la qualité sonore du texte, poétique, dramatique, mais aussi, oui, c'est ça, la psychologie des personnages est tellement profonde. Ça m'a vraiment décidé à attendre jusqu'à vraiment ce que je trouve le texte qui me convienne. Parce que j'en ai eu des propositions d'opéra au cours de ma vie, et j'ai jamais dit oui, parce que il pouvait y avoir des textes fabuleux. Par exemple, je me souviens d'un texte de Coltès qu'on m'avait proposé. Vraiment, pour faire un opéra, c'était parfait. Mais il manquait des ingrédients pour moi. C'est-à-dire que dans ce texte de Claudel, j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait. Et ça, je dois beaucoup à Büchner, donc aussi à Berg. Voilà, c'est une musique magnifique. Et dans l'extrait que je vous ai proposé, je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients. On a des moments qui sont vraiment presque de la récitation. On a des moments qui sont du pur drame, enfin vraiment des explosions. On a des moments qui sont du parler, on a des moments qui sont du cri, qui sont aussi chantés de façon plus traditionnelle. Donc déjà, il y a une espèce de richesse, là, il y a un potentiel que je trouve vraiment tout à fait extraordinaire, qui nous fait déjà sortir de loin des techniques habituelles de l'opéra classique, que j'aime. Hein, quand je dis ça, c'est pas du tout méprisant, hein, c'est juste que je pense que, bon, on peut aller un peu plus loin, là, maintenant, là, on est quand même en 2022, presque 23. Je me souviens très bien avoir dit à un ami avec qui on faisait de la musique, quand j'avais justement là, 17 ans dans ces eaux-là, qui de toute façon, moi je vais écrire un opéra, je voulais le faire. Après, bon, bah, il fallait attendre, bon, j'avais beaucoup de choses à apprendre quand même. Et puis voilà, après il fallait vraiment que j'aie la rencontre, parce que je savais aussi, c'était dans une certaine mesure tellement important pour moi de faire ça, comme un idéal un peu, hein, que je savais que j'allais y consacrer une part très importante de ma vie, quoi. Alors 3 ans, c'est pas si long que ça, mais c'est quand même... Là, je parle des 3 ans d'écriture, mais avant, il y a eu aussi la préparation, et puis ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie, quand même. Donc je voulais pas... J'avais besoin que chaque jour, chaque matin, quand j'allais me réveiller, que j'allais voir que j'avais une journée de 8 heures là, en face d'une partition, que je voulais être sûr que j'avais une bonne raison de le faire, et que pas seulement faire un opéra, pas seulement gagner de l'argent ou je ne sais quoi, ou être connu ou je ne sais quoi, mais que j'étais dans un accord profond, quoi, et que ça allait me nourrir, en fait, tout simplement, peut-être ça, voilà, que ça allait me nourrir.
Tu passais une seule
assez monumental. Hein. Là, on est quand même... c'est un opéra qui dure 2h25. Hein. C'est énormément de travail. Et puis, tout nous pousse à ne pas faire, en fait. Hein. Je veux dire, c'est tellement facile de dire, bon, ben là, j'ai le temps, voilà. Et après, bon, bah après, c'est la qualité de la musique qui s'en ressent. Bon, après, ça dépend des gens aussi. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la spontanéité. Mais dans ce style de musique, c'est difficile parce qu'il y a vraiment, il y a une part artisanale qui est extrêmement laborieuse quand même. Hein. Faire l'électronique qui soit intéressante, c'est pas juste fiche des sons comme ça. Hein. C'est bon. Et puis, voilà, pareil pour les instruments, pareil pour les voix. Ouais. Donc moi, j'avais besoin d'être dans un accord profond. C'est ça, de sentir qu'en fait, que j'allais être nourri aussi par cette expérience-là. Par le texte lui-même, par les personnages, en fait. Et ils sont assez extraordinaires, les personnages de Claudel, parce qu'ils sont très ambigus. Je ne sais pas si... Comment, la plupart du temps, cette pièce est montée de façon peut-être un peu manichéenne. Hein. On a la bonne, la mauvaise... Voilà, mais en fait, les personnages sont hyper ambigus. C'est-à-dire que celle qui est, entre guillemets, la sainte, qui va finir par ressusciter l'enfant, en fait, elle est dans un désir trouble avec un homme qui est lépreux, dont elle sait qu'elle est lépreux, qu'il est lépreux. Elle l'embrasse. Pourquoi est-ce qu'elle embrasse un lépreux? Etc. Alors qu'elle va se marier. Et qu'en plus, elle est foncièrement amoureuse de l'homme qui va devenir son mari. L'autre, la noire, entre guillemets, Mara, donc c'est la méchante, c'est la jalouse, elle tue sa sœur à la fin, enfin voilà. Mais en même temps, c'est la seule qui a vraiment la foi, puisque c'est la seule qui croit que sa sœur peut faire cette action de ressusciter l'enfant. Donc ce sont des personnages très, très riches et qui m'amènent aussi à me pas me questionner sur moi-même, mais évidemment, si, c'est quand même un questionnement sur moi-même. Je suis où, moi? Je suis qui? Je suis dans tout ça? Est-ce que je suis ça, ça, un peu ça, un peu ça? Voilà, bon. Donc, bref, j'ai besoin de ça.
Dans les oreilles de
Philippe Leroux. Un enregistrement réalisé dans le cadre de la création mondiale de l'annonce faite à Marie du 9 octobre au 19 novembre 2022.
Un petit peu, des petites choses dedans.
C'était l'émission Nuages d'Élai sur JetFM et les actes 2 et 3 d'une série de podcasts dans les oreilles de Philippe Leroux, compositeur contemporain invité d'Angers Nantes Opéra pour l'annonce faite à Marie, création mondiale autour de l'œuvre de Paul Claudel. On poursuivra l'exploration des oreilles de différents invités d'Angers Nantes Opéra puisque c'était une série de podcasts avec des invités tout au long de la saison. Le prochain en date, c'est Robin Melchior, compositeur à l'œuvre pour compléter un opéra inachevé de Mozart, Zaïde, qui se joue très prochainement au début du printemps à Angers Nantes Opéra. L'intégralité de ces podcasts dans les oreilles d'eux est à retrouver sur la chaîne YouTube de Angers Nantes Opéra et très bientôt sur les différentes plateformes habituelles d'écoute de podcasts. Nuages d'Élai se referme pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine, peu ou prou à la même heure, un peu après 18h. Dans un instant sur JetFM, c'est Connexions.